com.
Marceau, le matin.
On informe dans le trafic que Denis Gravel est en route pour le pit stop qui devrait avoir lieu vers les entours de 7h55 max. Dans le trafic, qu'est-ce qui se passe?
On est dans l'heure de pointe que je qualifierais d'habituelle pour un jeudi. Encore un peu d'attente pour l'accès aux pompiers à la porte direction nord. C'est pas catastrophique. C'est aussi au rouge sur Capitale-Ouest entre Beau-Royal et ça va pas si mal. Ça s'étire même pas jusqu'à Laurentienne, à Maton, à peu près jusqu'à Première Avenue. Fait que c'est une pas pire nouvelle. En 4 sud, petit ralentissement hauteur Chauveau. Généralement, oui, heure de pointe, là, mais plutôt léger aujourd'hui.
Merci beaucoup. C'est 17 degrés sur Québec, généralement nuageux pour aujourd'hui. Des probabilités d'averse à 40%, maximum de 30. Là où il y en a qui vont, ça va peut-être ruer des brancards, c'est ceux qui travaillent à l'extérieur. Température ressentie possible aujourd'hui, Jeff, 38 degrés.
C'est chaud.
Un petit peu. On est bien à l'air climatisé. On se plaignera pas aujourd'hui. Ce soir, cette nuit, partiellement nuageux, avec un minimum de 20 degrés. Demain, vendredi, des nuages, 40% de probabilité d'averse, maximum de 24 degrés. La bonne nouvelle, c'est que le topo a changé pour ce week-end. On nous annonçait de la pluie en début de semaine. Bien là, samedi, ce serait une belle journée ensoleillée avec un maximum de 24. Peut-être un peu de pluie en soirée, minimum de 15 degrés. Et dimanche, ça n'a pas changé. Des probabilités d'averse quand même assez élevées, max de 23. Et lundi à plus long terme, même chose, des averses avec un maximum de 20 degrés. C'est un plaisir de le recevoir en studio. C'est un ami du show du matin. C'est Frédéric Boisvert qui est PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Salut Frédéric, comment vas-tu?
Salut Yannick.
Ça roule-tu à la Chambre de commerce ces temps-ci?
Ah, ça chôme pas, ça chôme pas. On reçoit ce soir la première ministre du Québec en événement pour lui demander sa vision par rapport à la capitale nationale, les projets qu'elle entend prioriser pour Québec. Fait qu'on est content de ça. Ça, c'est bon. Mais c'est sûr que ça pas arrêté, c'est un feu roulant. On voyait dernièrement tous les commerçants de Saint-Roch qui, on va se le dire, là, ils ont déjà mal, puis ils vont finir par avoir encore plus mal que ça. Moi, je vais les visiter vendredi matin parce que, écoute, il y a des membres là-dedans, il y a du monde qui ont leur santé financière sur la ligne, leur santé physique.
Et mentale.
La famille par-dessus ça, je vais dire, c'est pas facile. C'est pas facile, mais il reste que Québec doit subir cette transformation-là, mais ça se fera pas sans pleurs puis sans cris, ça c'est certain.
Quand tu parles avec les autres DG des chambres de commerce à la grandeur du Québec, tu sens-tu que des fois, certaines personnes, je te dirais, à l'ouest de Québec, plus précisément proche du Nil, sens-tu que ces gens-là veulent se mêler de ce qui se passe un peu partout en région, que ce soit en Gaspésie, au Saguenay, à Québec? Encore là, le maire de Laval qui sort ce matin en disant « Là, moi, j'ai pas d'argent pour mon service de transport en commun, mais les maudits à Québec, ils veulent un troisième lien. » Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens gèrent pas leur propre secteur?
Ben, écoute, première chose, c'est ça, c'est qu'autrement dit, ils voient ça comme une tarte à somme zéro, puis ils voient les investissements qui pourraient se faire à Québec, puis, ben, eux autres, ils se disent, c'est d'autant d'argent qu'il n'y aura pas dans leur localité. Il reste qu'à Québec, on a des infrastructures dont on a besoin. On est la deuxième plus grande ville au Québec, on est la capitale nationale, on a besoin de ces investissements-là. Alors, on les invite joyeusement à se mêler de leur affaire, de faire un bon ménage dans leurs finances, puis de prioriser leurs projets en conséquence. Écoute, un budget, c'est pas infini, là.
Ouais.
Ben, franchement.
TGV, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, votre point de vue sur le TGV?
Ben écoute, ça fait longtemps qu'on l'appuie, parce qu'on pense que de connecter les trois pôles économiques que sont Toronto, Montréal, Québec, ça fait bien du sens économiquement.
Ouais.
C'est 40% du PIB canadien, c'est là que la plupart de la population canadienne se trouve à l'heure actuelle. Des pays comme le Maroc ont déjà deux TGV. Puis le Maroc connaît une croissance exponentielle fulgurante actuellement. C'est un des pays d'Afrique qui est en pente ascendante très, très, très verticale. Fait que qu'est-ce qui se passe qu'au Canada puis au Québec, on n'est plus capable de penser grand?
Es-tu
on n'est plus capable de faire des grands projets.
Es-tu surpris de la position du PQ, d'ailleurs, par rapport à ça?
Ouais, écoute, moi, je ne rentrais pas dans les... Ben, tu sais, j'ai regardé une entrevue, tiens, je vais vous dire ça comme ça. J'ai regardé une entrevue de Gérald Filion hier, qui passait en entrevue, un gars que je connais bien, que j'ai beaucoup de respect, Joël Arsenault, un gars des Îles. Puis la question, c'était, d'où est-ce que vous le prenez, cette fameuse portion-là québécoise? Le chiffre total n'est même pas connu.
Ouais,
de 40 milliards. D'où est-ce que vous sortez ça?
Ouais.
Puis après ça, ben c'est sûr que lui, il disait, ben écoute, le projet n'existe pas, le projet va changer, les gens ne sont pas d'accord.
Mais ils ont regardé comment ça se bâtissait du kilomètre en Europe, puis ils ont à peu près évalué ce que ça pourrait nous coûter ici, là, au kilomètre.
Bon, ben t'es gentil, t'as fait l'équation pour eux autres. Fait qu'écoute...
parce que lui, il ne savait pas comment répondre.
Ben, je sais pas, mais tu sais, mais bref, c'est parce que ce projet-là, c'est de l'argent fédéral pour un grand projet. Il n'y a pas de conversion. Le fédéral n'a pas pour tâche d'investir dans la dette d'infrastructure du Québec. Le Québec reçoit plus que 10 milliards de dollars de la péréquation. Qu'est-ce qu'on fait avec ce cash-là? Où est-ce qu'il va?
En effet.
Qu'est-ce qu'on fait?
C'est dans le panier de services, Fred. On a un gros panier de services. On n'a pas les moyens de se payer ce panier de services-là. C'est pas pour rien. Quand on regarde les immigrants, là, c'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup qui viennent en Ontario puis au Québec parce que les paniers de services sont quand même assez bien garnis, ce qui fait en sorte que quelqu'un qui gagne pas très cher est capable quand même de s'en tirer avec tout le panier de services qu'on peut avoir. Il y a des HLM.
Yannick, qui fasse comme toutes les familles au Québec là, qui ont de la misère. Là. Comme moi, à un moment donné, je dis pas que j'ai de la misère, mais on fait attention. Ouais. Fait que moi, là, on fait notre épicerie sur Food Hero. Je suis pas gêné de le dire, c'est des beaux 30-35% de rabais. Puis on fait attention, puis on gère notre budget correct.
Ouais.
Ben qu'on le fasse pareil. À un moment donné, c'est parce que l'argent, on l'imprimera pas, là. Puis la dette ne fait que grandir. Puis plus que le poids de l'État devient important dans l'économie, plus que l'économie se métastase, se ralentit, c'est pas bon.
Ouais. On est-tu encore capable de rêver au Québec?
Ouais, c'est de plus en plus difficile.
Ce type de train-là qui va extrêmement rapide, qui pourrait un jour, dans mes rêves, relier d'un océan à l'autre le Canada, j'en rêve depuis des années. Depuis que je fais de la radio 2006, que je parle de ce type de projet-là, puis on dit tout le temps « Ah, ça va coûter trop cher ». Est-ce que tu considérerais ça comme une bonne dette, ce type d'infrastructure?
C'est une excellente dette. Ça va être l'épine dorsale de l'économie canadienne du 21e siècle. Ça fait tellement du sens. Mais je reviens à ta question préalable, c'est « On est-tu capable de penser encore grand, voir encore grand, penser à des projets? » Je pense qu'on l'a en partie perdu. Cette capacité-là de s'imaginer. Même à la limite, en politique, moi, je me rappelle dans le temps, je suivais ça un petit peu, quand Jacques Parizeau appelait M. Bourassa mon premier ministre.
Oui.
Quand est-ce que tu vois ça maintenant?
Les négociations de l'accord du lac Meech.
Puis, à l'époque, on était capable de se dire, ben ça, c'est un bon projet. Bon, on ne touchera pas à ça.
Ouais.
On n'ira pas tout salir la cuisine. Là. Bon. Tu sais, on va prioriser nos projets, puis on y croit, puis ça, c'est important pour nous autres. Cette espèce de consensus-là, on l'a effrité, on l'a perdu. Puis ça, c'est dommage parce que ça vient nous handicaper pour la suite.
J'ai tellement hâte que tu sois maire de Québec.
Ah non. Moi, je ne retourne pas.
Tu veux pas que je te souhaite de malheur?
Non, c'est ça. Non. Moi, j'ai fait 10 ans en politique, je ne retourne pas là-dedans. Ouais. J'ai énormément de respect pour les gens qui y vont. Sérieusement, c'est un gros sacrifice. C'est pas tellement payé par ailleurs pour le nombre d'heures qu'ils font en passant, là, les fins de semaine, tout ça. Fait que moi, c'est respect. Puis d'ailleurs, on en a des bons politiciens à Québec en passant.
Frédéric Boisvert, tu es PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Ce qu'on a appris hier, c'est que promis lors de la course à la chefferie à la Coalition Avenir Québec, Christine Fréchette met en branle et remet en place le fameux programme de l'expérience québécoise dont la suspension, on va se le dire, avait provoqué un tollé un peu partout, entre autres chez les hommes et les femmes d'affaires du Québec en disant « Attendez un peu, là, nous autres, on a besoin de cette main-d'œuvre-là qui est bien formée. C'est des gens qui viennent ici pour un monde meilleur, qui veulent travailler fort. Puis là, vous nous les enlevez. C'est épouvantable. » La position de la Chambre de commerce là-dessus, sur ce volte-face du gouvernement?
Ben, ça fait longtemps qu'on le demande, puis on est tellement content que ce à quoi elle s'est engagée durant la course à la direction, elle le réalise maintenant. On va quand même le dire, Mme Fréchette, là, elle est quand même assez solide, elle est très studieuse et méthodique, elle n'est pas démagogue d'aucune façon. J'aime la méthode, j'aime l'approche, c'est sûr qu'on aurait tellement aimé que ça rouvre plus grand, parce que ce qu'on demande au niveau des chambres pour le Québec, c'est 106 000 travailleurs par année, puis là, du 45 000 qui rouvre, en fait, du seuil minimal là, de immigration économique, ça fait à peu près 28 000 TET, là, travailleurs étrangers temporaires qui vont peut-être pouvoir un jour aboutir au Québec. Fait que le programme qu'on parle, là, il va être ouvert pour quelques mois jusqu'en, je crois, octobre ou en tout cas, quelques mois durant l'été puis au début de l'automne.
Mais notre capacité d'accueil, est-ce qu'elle est prise en compte par les chambres de commerce? Quand vous dites « Hey, ça nous prend tant de gens pour pouvoir pallier au manque de main-d'œuvre dans nos entreprises », la capacité d'accueil, elle doit être prise en considération.
Le taux d'occupation à Québec, c'est rendu, on est proche du 3 %. On est bien correct. Là. Ouais. Puis au moment où il y avait beaucoup de TET dans la région, là, les travailleurs, ils étaient hébergés par... Tu sais, moi, je connaissais des propriétaires qui bâtissaient des blocs pour les TET, ça avait une influence sur la demande d'habitation à Québec. À Québec, on a toujours bien géré ça. Ça se peut-tu qu'à Montréal, il y en ait trop? Je ne sais pas. Mais moi, je sais, par exemple, votant à Sept-Îles, Rimouski, tout ça, ce sont des gens qui ont revitalisé nos villes du Québec. Puis là, les boys, là, on est en déclin démographique, là.
Ouais.
Puis on n'en fera plus de bébés, là. Fait que là, c'est qu'à un moment donné, il faut prévoir des 15-20 ans à l'avance. Fait que là, les gens qui vont vouloir s'installer chez nous, qui parlent français, qui veulent partager nos valeurs, ben on veut les avoir, les boys, parce que notre économie, là, c'est d'armes de cinq, mon ami.
Oui, mais ça nous prend des écoles, ça nous prend des garderies pour accueillir ces nouveaux arrivants-là. Ça prend des jobs. Au niveau des jobs, on est-tu capable de toutes les accueillir aussi, avec l'incertitude économique qu'on connaît?
Écoute, on a encore 15 000 postes vacants dans la région, les gars. 15 000 postes vacants.
C'est du temps plein, ça?
Ben, OK, j'ai pas le subset, là, j'irai pas vous bullshiter là-dessus, là, ce serait quoi le subset, mais 15 000 postes vacants, ça veut dire que c'est des compagnies qui sont pas capables de compléter des contrats ou d'en chercher des nouveaux, là. C'est littéralement ça que ça veut dire. Puis là, ben, on a bien beau dire l'automatisation, l'IA, tout ça, ça prend toujours bien des gens pour réaliser ces projets-là, puis il y a aussi beaucoup de formation par rapport à ça. Bref, c'est un méchant casse-tête. Moi, je pense qu'honnêtement, au niveau de la capacité, on est bien correct. On souhaite pas non plus qu'on ait une porte de grange, mais on peut... Parce que le problème à la fin, c'est que nos décisions actuelles vont influencer notre richesse collective pour les 20 à 30 prochaines années. Parce que faire venir du monde, c'est pas comme en claquant des doigts. Là, ce qu'on a fait avec le PEC, puis qu'on a joué avec ça, ça nous a envoyé un message très mauvais à l'international. Parce que quand on recommence le round de dire « Venez au Québec s'installer », ben notre promesse qu'on a reniée, là... Puis,
ça fait mal.
Fait que là, ce qu'on va avoir, c'est pas le top talent qui va venir au Québec, là, parce qu'on n'est plus fiable.
Ouais. Est-ce que tu crains quand même que le gouvernement ne suive pas la parade? Puis là, je te donne un exemple. Yannick vient de dire les écoles, les hôpitaux. Dans la région de Québec, je te dis à Appalaches, il manque 20 écoles à l'heure actuelle. Il y a 21 écoles qui devraient être agrandies. On a un problème de planification de nos infrastructures.
Ouais, planification, ça, c'était... Oui, vraiment, vraiment. Mais au-delà de ça, là, on va se le dire, là, c'est un peu grave de dire ça ce matin, là, mais on manque d'argent. Le Québec n'a plus d'argent.
Mais pourtant, c'est parce qu'on en envoie, Fred. C'est ça, Krim.
Non, mais c'est ça.
Je suis saigné de tous les bords.
Ben oui, mais hey, tu me parles pas à moi, là. Je sais c'est quoi, là. Je sais très bien c'est quoi.
Moi puis Jeff, on est suspendus à l'envers. Ah non, ils ont fait une petite
Tu regardes ton paystab.
Ou la jugulaire.
Tu regardes ton paystab, tu fais écoute les boys, là. Non, OK, mais première affaire, c'est que le gouvernement dépense trop. Ouais. Le gouvernement dépense mal. Puis ben évidemment, ben si on fait pas de choix, ben c'est pas compliqué là. C'est qu'à un moment donné, t'es plus capable de rien faire, t'es étranglé fiscalement. Fait qu'eux autres, ils peuvent plus. Tu sais là, on peut plus n'avoir de taxes au Québec parce que là la main d'œuvre là, ça va être plus payant de pas travailler que de travailler là. Fait que tu sais, faut qu'il y ait un ménage à terme là-dedans. Là. Ça c'est certain.
Fred, il se passe de quoi avec le monsieur Orange de l'autre côté?
Ouais.
Puis il est en guerre avec l'Iran. Israël est mêlé à ça. Des fois, on nous dit qu'on est sur le point de s'entendre avec l'Iran. Des fois, on nous dit qu'on n'est pas sur le point de s'entendre avec l'Iran. Mm-hmm. Ça a des impacts économiques au Canada. Major. Ça a des impacts économiques aux États-Unis. Ça, c'est sans compter l'ACEUM. Les hommes et les femmes d'affaires de Québec... font quoi présentement? Est-ce qu'on est stand-by en attendant de voir ce qui va se passer? Ça doit être des moments assez stressants, surtout pour ceux qui importent et qui exportent. Là.
Il y a une forme de résilience qui s'est installée chez les entrepreneurs, que c'est comme une fatalité. Ça je le vois, là, je le sens. Puis j'écoutais Stéphane Marion hier de la Banque nationale qui nous expliquait qu'on est peut-être rentré dans un scénario de stagflation.
Oh.
Donc, un scénario de stagnation conjugué avec de l'inflation. Ça, là... c'est quelque chose. Fait que toutes les décisions que la Banque du Canada vont prendre au cours des prochains trimestres, ça va être important.
On est à 2,25, là?
À peu près. Fait que, mais tu sais, excuse-moi, j'ai échappé ta question au début, là. C'était pour...
C'est l'incertitude dans laquelle hommes et nos femmes d'affaires actuellement sont présentement à Québec. Ouais. Est-ce qu'on continue d'investir en se disant « Anyway, ça va me revenir plus tard » ou... on est sur le statu quo?
Il y a beaucoup de statu quo. Il y a quand même des gens. Ce qu'on voit, par exemple, c'est au niveau là, t'sais, granulaire. Là, il y a beaucoup, beaucoup de partage de tarifs qui se fait actuellement. Ou, par exemple, lorsque tu vas aux États-Unis, la compagnie américaine va absorber une partie du tarif, la compagnie indienne va faire pareil. Fait il y a beaucoup d'agilité qui se passe là-dedans. Puis le tarif, le marché américain demeure un débouché intéressant. C'est sûr que moi, je suis allé dîner dernièrement avec l'ambassadeur des États-Unis au Canada qui était à Québec, puis qui nous racontait que, bien évidemment, lui, ce qu'il souhaite, c'est que ça débloque. Mais ils ont un style assez brash, je vais dire. Là. C'est pas... Mais... à terme, je vois pas actuellement, là, tu sais, est-ce qu'il va y avoir une baisse de tarifs? Est-ce qu'il va y avoir une ACEUM 2.0 signée demain matin? Je le vois pas. Moi, je vois plutôt des ententes sectorielles à terme en fonction des besoins de l'économie américaine parce qu'eux autres, ils ont besoin du Canada. Ils ont besoin du pétrole du Canada. Ils ont besoin de l'aluminium du Canada. Ils ont besoin du métal. Tu sais, on est un pays de ressources naturelles, là. Malheureusement, on ne la transforme pas chez nous. On l'envoie tout aux États-Unis ou ailleurs. Puis le pari de la diversification, j'y crois. mais ça se fait sur plusieurs années. Là. Ça se fait pas sur un, deux, trois ans. Puis on va se le dire, là, exporter en Europe, c'est bien. On voit que vraiment l'économie canadienne s'en va vers là.
Ouais.
Mais avant qu'on guire, puis qu'on transforme, puis qu'on change... Tu sais, le destin, c'est la géographie. Là.
Ouais.
On peut pas se désincarner non plus. Là. On peut prendre des marges de 10-15% d'augmentation, 30% d'augmentation au niveau de la diversification, mais tu peux pas changer ta condition géographique non plus.
C'est quoi, c'est 80% à peu près?
Ah, plus que... Ouais, à peu près, ouais. 80% du stock qui s'en va aux États-Unis. Puis ça, je parlais avec Louise Blais, qui est en charge des négociations pour le gouvernement du Québec, puis elle le dit elle-même, elle dit, on est condamné à nous entendre. Tu sais, je veux dire, que ce soit avec Trump ou avec un autre, tu sais, on n'aura pas le choix. Notre réalité, elle est nord-américaine.
Puis la stratégie de Donald Trump, c'est-tu de justement ne rien faire dans le dossier de la CEM? Quoi qu'on nous dise que le Mexique, ça va quand même assez bien dans les négociations, mais Jean Charest avait été à Tout le monde en parle il y a de ça quelques semaines, puis il avait dit, ben, s'il n'y a pas d'entente, on revient à l'entente initiale qui avait été signée en 2017 par Donald Trump.
Ouais.
Donc, on garderait cette entente-là jusqu'en 2036 à peu près.
Oui, exactement.
De ce que M. Charest nous avait expliqué. Ça se peut-tu que ce soit ça, la stratégie?
Oui, mais la vérité, c'est que peu importe ce que Donald va signer demain matin, là, il peut mettre ses pieds dessus le lendemain après. Fait que, tu sais, il n'y a pas de certitude. Il peut imposer le tarif quand il veut.
Ouais.
Actuellement, il est hors, entre guillemets, hors traité depuis bien longtemps.
Ouais.
C'est quoi les instances qui vont dire aux États-Unis, écoutez, vous êtes pas, vous respectez pas votre traité? Il
n'y
a rien. Lui, il fait ce qu'il veut. Là. Fait que, qu'on signe quoi que ce soit demain matin, ça se peut que le lendemain, il se lève et il dit, ben moi, je préfère avoir du tarif encore plus, un 10% sur le bois, un 5% sur le fer, c'est ça.
Ouais. Dans une chose qu'on contrôle, c'est notre productivité.
Oui.
Là, je voyais dans le rapport hier, diminution de la productivité dans la région de la Capitale-Nationale, mais au Québec, on est passé du premier au cinquième rang.
Ouais.
Comment qu'on attaque ça là, pour venir contrecarrer ce qui se passe de l'autre côté de la frontière?
Bon, écoute, première chose, c'est que dans la région de Québec, il y a un manque de sophistication au niveau manufacturier, c'est clair. On doit investir dans la digitalisation, dans l'automatisation. On doit insérer l'IA. Il y a encore des compagnies à Québec qui n'ont pas d'ERP dans leur système de production.
Mm-hmm.
C'est toutes des choses qui font que tu as du contrôle sur ta production, tu as de la donnée qui fit ton développement des affaires. C'est ça le défi des compagnies de Québec. Puis il y en a qui réussissent très bien, là. Mais si au niveau de la moyenne, il y a beaucoup de défis au niveau technologique qui permettent... Parce que là, on va se parler franchement, là. C'est quoi la conséquence de ne pas être productif, Jeff?
Ben, c'est fait.
Non, c'est très simple. Écoute bien ça, là. La production man-hour au Québec par rapport au reste du Canada, on est 8 $ moins productif que le reste du Canada.
Ouch!
OK, première
chose.
C'est
ton coût de produit.
Attends un peu. Les États-Unis, on est à 30 $ moins productif. Fait que là, ben, faut pas se surprendre quand on se compare au niveau des statistiques. Une famille québécoise, si on se compare au niveau de l'OCDE, on est 12 000 $ plus pauvre que le reste du monde.
Pas de sens.
Ben, c'est ça la
conséquence. Est-ce que Lucien Bouchard avait raison? Les Québécois, c'est pas des travailleurs?
Ben, c'est pas... Non, c'est pas... On travaille, mais on pourrait travailler mieux.
Ah, okay.
On pourrait être plus efficace.
Mais t'es un gars positif de même.
C'est le fun, hein?
Frédéric Boisvert, c'est toujours un plaisir de te recevoir. T'es PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Au plaisir de s'en jaser dans quelques jours, sinon quelques semaines, mon ami. Puis si on se recroise pas, ben un bel été.
Salut!
Max sur la route.
Capitale Ouest, à partir de mi-chemin entre Seigneurial et Beau-Royal jusqu'à Laurentienne, c'est au rouge. Laurentienne Sud entre Le Bourgneuf et Capitale également. La Capitale Est, dans le coin de Neuvial, ralentissement qui commence jusqu'à l'approche de Pierre-Bertrand. Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, c'est jamais en 4 Sud, ralentissement habituel, hauteur de la 40 et secteur des ponts. Ça s'améliore tranquillement, pas vite, mais toujours des petites complexités pour passer à la rive nord.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la